Merci Gabriel. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je peux prendre votre... Ok, merci. Alors, nous sommes dans la joie d'être ici ce matin avec vous et de pouvoir passer du temps avec vous ensemble comme peuple de Dieu et de travailler ensemble. Bon, c'est correct. On se place tranquillement. Bien. Alors, nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous visitent à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Je m'appelle Adama Diko, je suis un des responsables à l'Assemblée ici pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui se joignent à nous pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse et qu'ensemble nous puissions passer ce moment ensemble dans la gloire et dans la bonté de Dieu. Ce matin, j'ai quelque chose à partager sur l'Apocalypse. C'est le passage que nous voulons enseigner, les sept églises de l'Apocalypse, ou les lettres qui sont adressées aux sept églises de l'Apocalypse dans ces périodes. Et il avait été planifié que j'allais enseigner la deuxième partie. Et notre frère Trevor Bridgman, qui devait enseigner la première partie, vous savez, il est absent depuis quelque temps, sa santé ne va pas. Alors, j'aimerais vous demander, vraiment dans l'intimité de votre famille, à la maison, priez pour notre frère, on a besoin de lui, sa santé ne va pas. Continuez de prier pour ceux qui prient déjà, et ceux qui ne prient pas, mettez-vous à genoux, s'il vous plaît, prions pour nos frères. C'est ce que la Bible nous demande, de prier pour les responsables de l'Assemblée, de nos églises. Alors, ce ne serait pas péché, prier. Alors donc, souvenez-vous de notre frère et de Marielle dans leur prière, et de d'autres frères et sœurs qui sont souffrants. Et nous sommes contents de trouver Pierre ce matin encore avec nous, et que Dieu soit loué pour cela. Et tant d'autres frères ou sœurs qui sont malades, qui sont là ce matin. Alors, et l'Apocalypse, nous allons l'enseigner ce matin, et ce qui m'a été donné comme passage à enseigner. Alors, si je vous demandais, par exemple, est-ce que vous aimez Dieu? C'est certain que votre réponse sera affirmative. Oui, nous aimons Dieu. Mais la question qu'on vous poserait, jusqu'où aimez-vous Dieu? Jusqu'où votre amour est prêt pour Dieu, est prêt à aller? Jusqu'au rejet? Jusqu'au mépris? Jusqu'à l'abandon? Jusqu'à la prison? Jusqu'à la mort? Jusqu'à la persécution? Jusqu'à la perte de vos biens? Jusqu'à être rejeté par votre famille, par la société tout entière? Êtes-vous prêt, dans votre amour pour Dieu, à aller jusque-là? Sommes-nous prêts à accepter d'être rejetés par toute la société simplement parce que nous avons choisi de marcher pour Jésus-Christ? Si nous ne sommes pas prêts jusque-là, ça voudrait dire que nous avons un problème. Que j'ai un problème si je ne suis pas prêt jusque-là. Et en même temps, ça s'explique aussi. Parce que c'est progressivement les choses arrivent. Mais mon but ce matin est de nous amener à comprendre que ce que nous allons voir n'est pas anodin, c'est des choses qui arrivent et qui pourront arriver. Mais avant ça, on va regarder quelque chose ensemble. Et on regarde, j'ai mis cette image-là comme Jean, l'apôtre Jean, qui est assis, qui regarde loin dans la vision, qui reçoit la révélation de Dieu par rapport aux églises, mais aussi par rapport à toute l'Apocalypse. Mais cette fois-ci, vu que nous sommes dans le contexte des livres, les sept lettres de l'Apocalypse adressées aux églises, alors, l'église de Smyrne, une église persécutée. Mon thème ce matin, c'est dire, marchons avec Dieu, malgré l'épreuve de la fournaise. Marchons avec Dieu, malgré l'épreuve de la fournaise. Vous voyez des pieds qui marchent, mais il y a un autre, lui, il marche même, il brasse le feu. Hein, il brasse la fournaise. Hein? Alors, on peut dire, mais ce n'est pas réaliste. Mais en quelque sorte, la vie chrétienne est une forme de fournaise où le chrétien est épuré chaque fois par Dieu et par les épreuves qu'il rencontre sur son chemin. C'est pour l'épurer et être semblable à son image, à lui. Mon plan ce matin, c'est ceci. On va voir ça, la mise en contexte, l'auteur de la lettre, puisque c'est un épître que nous lisons, et les destinataires, et le contenu, et la conclusion. Voyons, il ne vient pas. Ok. Maintenant, j'aimerais que mes techniciens en arrière, là-bas, mes frères qui m'aident, mes collaborateurs, ouvrent bien cela pour nous. J'aimerais que vous regardiez ça. Prenez le temps de regarder avant que Billy ne lance ça. Regardez bien, parce que ça a un message dedans. Ça va? Écoutez, tu peux lancer Billy, s'il te plaît. Amen. Et ça, il y a un message dedans. Mon but, c'est quoi? C'est pour nous amener à comprendre quoi? Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est comme ça. Je n'ai qu'à m'asseoir à la maison sous un arbre, et puis le Seigneur va m'envoyer mon bacon et puis mon steak. Je n'ai pas à bouger, la commande sera livrée à la maison. Je n'ai pas besoin de lever le doigt. La vie chrétienne, ça doit être le confort, il ne doit pas avoir de problème de petits pépins, on ne doit jamais avoir ça. Si tu as ça, ce n'est pas correct. Tu as un rhume, ce n'est pas correct. Tu as un bras qui est cassé, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu, ça ne devrait pas arriver. En Afrique où j'étais, les gens croyaient ça. Dans beaucoup d'églises, ils prêchaient l'évangile de la prospérité. Tu ne dois pas être pauvre. Pourquoi? Parce que ton Dieu est riche. Si tu es pauvre, c'est parce qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu es malade, ce n'est pas normal. Tu ne dois jamais tomber malade. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le médecin des médecins. Il guérit toutes les maladies. Alors, tu es malade, ce n'est pas correct. Voilà leur perception. Je ne dis pas toute l'Afrique est comme ça. Mais je dis, certaines églises ont abusé dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce que nous croyons à l'Assemblée du Cap. Nous croyons que la souffrance fait partie de la vie du croyant et que c'est même un outil, des fois, pour sanctifier le croyant et l'amener à atteindre les objectifs que Dieu lui a fixés. Alors, ça aussi, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça, des gens qui sont dans le passé, qui ont été mis dans des arènes pour être tués par des lions, mangés. C'est des chrétiens, c'est des personnes qui ont accepté de marcher pour Dieu au prix de leur vie. Et l'Écriture nous dit, dans 1 Pierre 4, elle nous dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Le chrétien doit s'armer, doit savoir, doit être conscient que la persécution peut arriver à n'importe quel moment. Si je suis assis que mon steak vient me trouver à la maison et que je n'ai pas de persécution, que tout est tranquille chez moi, ce n'est pas une façon de vivre, c'est une grâce que Dieu permet que je vive comme ça aussi. Et si je suis persécuté, c'est aussi une grâce de Dieu d'être persécuté pour son nom et pour sa cause, pour pouvoir le glorifier. L'un ou l'autre est un moyen pour Dieu de tirer gloire. Ce n'est pas à moi de dire, ça c'est bon si ce n'est pas fait de cette façon, alors ce n'est pas correct, mais si c'est fait de telle façon, c'est correct. Les deux aspects existent. Pendant que d'autres sont assis tranquillement dans une climatisation, dans un fauteuil rembourré comme nous le sommes ici, il y a d'autres qui sont en train de se faire tuer en Afrique et en Asie, Indonésie, en Inde, et vous connaissez Porte Ouverte. Il y en a qui sont en train de se faire tuer dans ces endroits-là. Mais quelle est la différence entre ces chrétiens et nous? Est-ce qu'ils sont plus spirituels que nous? Ou bien nous sommes moins spirituels que eux autres? Ou bien nous sommes plus spirituels que eux, que nous, on n'a pas de problème ici? Non, on a chacun notre lot de problèmes. Chaque situation, Dieu sait comment agir pour que son nom soit glorifié. Et Timothée, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, son fils, il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mon but ce matin est de nous amener à être conscients simplement, ou à nous conscientiser que des choses comme ça peuvent nous arriver un jour, même au Québec, même en 2015 au Québec, ça peut nous arriver. Mais si cela arrive, qu'est-ce que nous ferons? Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous préparés à cela? C'est ça mon but, que nous devons, comme Église, être non seulement conscientisés, mais se préparer
mentalement, spirituellement, dans ce sens. Alors, mon introduction ici, par rapport à la ville de Smyrne. L'église de Smyrne reçoit une lettre de la part de Dieu. Et Smyrne se trouve en Asie mineure, et plus particulièrement en Turquie. Aujourd'hui, c'est une ville très moderne comme ça. Elle a été fondée 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été détruite et reconstruite au 4e siècle, au temps d'Alexandre le Grand. Elle a été rebâtie. Mais cette ville-là était considérée comme la couronne, comme le joyau de toute l'Asie mineure, à cause de son port et de son emplacement. Les gens étaient riches, ils faisaient beaucoup de choses dans cette ville aussi. L'Écriture nous dit, selon les historiens, il est dit que Polycarpe, qui était un des disciples de Jésus, mais plutôt qui a été plus particulièrement un des disciples de l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, parce que Polycarpe a vu l'apôtre Jean, il a parlé avec lui, et on dit qu'il était disciple de lui, et il est mort par martyr, il était évêque de la ville de Smyrne. Le mot Smyrne vient d'une plante qu'on appelle la myrrhe. Et cette myrrhe-là, c'est une plante amère qui coulait une substance résineuse qu'on pouvait utiliser pour faire du parfum ou pour faire des embaumements pour les morts. Et son nom prend sa signification là. Et pourquoi on dit cela? Les chrétiens de Smyrne vivaient réellement dans l'amertume de la douleur et de la souffrance. Mais ils ont transformé cela pour la gloire de Dieu qui a donné un parfum de bonne odeur. Ils souffraient cruellement. Alors, j'aimerais que nous regardions un peu ici dans ce sens-là. Hey, on dirait mon texte est parti plus vite là. Comment le Seigneur se présente à cette église de Smyrne? Quand nous regardons, le Seigneur se présente au verset, avant de regarder, j'aimerais qu'on lit le texte même, ce serait mieux comme ça pour nous. On va aller à notre texte, dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. On va le lire ensemble. Verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et cela a été écrit 2000 ans, presque 2000 ans ou environ 2000 ans, adressé à cette église de Smyrne, pour les encourager. Et ils passaient d'une difficulté, ils traversaient une situation très pénible. Mais quand le Seigneur écrit à l'église de Smyrne, il se présente à eux comment? Il se présente à eux premièrement, dans ce passage-là, quand nous regardons, il se présente à eux, il dit, celui qui est le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qu'est-ce que cela nous dit? Le premier, il veut dire celui qui était là depuis l'éternité. Celui qui est le commencement de toutes choses. Celui à qui et pour qui toute chose a été créée, par qui ça a été créé et pour qui ça appartient. Le commencement, quand nous regardons Genèse 1:1. Le commencement, dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il était au commencement. Rien n'a été avant lui. Il se présente à cette église-là comme le créateur et le Dieu puissant de toutes choses. Il dit, je suis le dernier, c'est-à-dire qu'après lui, il n'y en a plus d'autres. C'est-à-dire, comme pour emprunter le langage de Michel Pénon, il viendra, il fermera la boutique. Et puis, il partira. C'est-à-dire qu'il va venir clôturer. C'est lui qui a le dernier mot. Il va juger les nations à la fin. Il a la puissance de le faire. Donc, il se présente à cette église-là comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute la création, le Dieu à qui tout appartient, et le Dieu qui est le premier et le dernier qui va finir tout, qui va finaliser tout. Et il dit, il se présente à eux aussi comme étant le Dieu qui est mort et qui est revenu à la vie, celui qui a eu la victoire sur la mort. Celui qui a eu la victoire sur la mort. Et il dit, ce Dieu-là, dans Jean 11, devant la tombe de Lazare et devant ses sœurs, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra plus. » Je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis mort, je suis revenu à la vie. Donc la mort n'a pas pu le retenir dans le séjour des morts. La mort n'a pas eu la puissance de pouvoir le garder. Il est sorti victorieux. Alors quand il s'adresse à cette église de Smyrne, une église qui souffre, une église qui est persécutée, une église qui est dans des douleurs, il se révèle comme ce Dieu-là. Le Dieu qui a souffert, qui vous comprend. Le Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui est en contrôle de toutes choses. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le contrôle que l'église de Smyrne souffre. Non. Et le Dieu qui peut compatir à leurs souffrances. C'est ainsi que le Seigneur se présente à eux. Et ce mot premier, le dernier, est encore expliqué dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, comme vous le voyez dans les textes que nous voyons, Ésaïe 44, verset 6, qui nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. » Eux sont le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. « Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Hors de moi, il n'y en a pas d'autre Dieu. » À Smyrne, les empereurs se faisaient adorer. Les empereurs, il y avait plusieurs dieux et des temples étaient là. La ville de Smyrne était dévouée pour la cause de l'empereur, Rome. Alors, ils avaient bâti même des statues, des temples, et où ils faisaient des cultes à l'empereur. Mais Dieu dit, je suis au-dessus de tous ces dieux-là. Je suis plus puissant que tous ces dieux-là. N'ayez pas peur d'eux, je suis fort que les autres. À Israël, Dieu se présente comme ça. Et dans le verset qui suit, il nous dit, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt, ils se présentent. » Quel Dieu que nous avons. Dieu est en train de dire, moi j'appelle les choses qui n'existent pas. Je les appelle du néant. Ils apparaissent. De l'invisible, j'ordonne et les choses se produisent. C'est ce Dieu que nous avons. Quand il dit, soit, la chose est. Ce n'est pas que ça sera après. Non. Le fait que le mot sort de sa bouche, elle vient à l'existence. C'est ce Dieu-là que vous avez comme Père. C'est ce Dieu-là que nous avons comme Père, comme notre Dieu, notre Papa. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Vu que c'est une lettre, on parle de l'auteur qui a adressé la lettre à l'église de Smyrne. Mais en même temps aussi, nous voulons parler des destinataires de cette église, là, ceux à qui cette lettre a été destinée. Dieu les écrit dans le but de les édifier, de les encourager, pour les consoler. Il les écrit parce qu'il voyait leur situation, leurs difficultés. Alors, il les écrit dans ce sens-là. Et il dit, écris à l'ange de l'église de Smyrne, l'ange Angelios, qui voudrait dire messager, envoyé. De Dieu, des choses comme ça. Et il écrit à l'église de Smyrne, qui sont tous des messagers pour Dieu. Leur rôle est d'éclairer et d'être un témoin fidèle qui donne de la lumière à toutes les nations autour d'eux en Smyrne. Dieu leur parle. Leur situation, c'est quoi? L'église de Smyrne était dans des difficultés. La tribulation était leur part. La pauvreté était là. La calomnie était là. Et même on dit, ils grandissaient au milieu, ils continuaient de persévérer au milieu, auprès ou à côté d'un synagogue de Satan. Ils étaient, tout était réuni pour empêcher cette église de persévérer et de croître. Mais cependant, c'est une église qui a résisté, qui a demeuré fidèle dans la tempête, qui ne s'est pas laissée dominer, qui n'a pas fléchi le genou devant le temple de Rome, qui n'a pas dit que César est roi et seigneur. Ils ont refusé de confesser cela. Et même leur pasteur a été tué sur le bûcher, brûlé, quand on lui a demandé de renier le Seigneur Jésus-Christ. Polycarpe s'est levé. Il a dit aux gens, vous me demandez de renier le Seigneur Jésus-Christ. Comment pourrais-je le renier? Pendant 86 ans, j'étais au son service. Il ne m'a fait que du bien. Pendant 86 ans, je l'ai servi. Il ne m'a fait que du bien. Comment puis-je renier mon Sauveur et mon Seigneur? Et le monsieur lui dit, mais n'as-tu pas peur de mes lions, de mes bêtes? Il dit, envoie-les. Il dit, puisque tu n'as pas peur des lions, on va te mettre sur le bûcher. Il dit, je n'ai pas peur de ce feu-là. Le seul feu que je crains le feu de l'éternité, de la Géhenne. C'est ce seul feu qui me fait peur. Il a accepté de monter sur le bûcher. Quand on a voulu le clouer, il dit, non, laissez, mon Dieu m'aidera. On voulait l'attacher, il dit, non, laissez faire. Il est resté couché et il a été brûlé. Selon les historiens, on disait que quand le feu a pris, que le feu ne l'a pas brûlé, c'était comme les amis de Daniel. Mais d'autres, ils ont dit qu'ils ont pris une lance, un épée pour percer son cœur. Et le sang qui a giclé était énorme pour éteindre le feu. Mais il a été un témoin qui a tenu, qui s'est tenu debout devant l'Empire romain, devant tout un peuple. Il a été audacieux dans sa foi. Nous, ce matin, si Jésus-Christ nous écrivait, adressait une lettre à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, comment est-ce qu'il se révélerait à nous? Est-ce qu'il se présenterait à nous comme étant le premier et le dernier, étant celui qui est mort et ressuscité, et celui qui vit maintenant? Est-ce que c'était de cette manière qu'il se révélerait à nous? Je crois que oui, parce que l'Écriture dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous adressera la même chose. Parce que ses attributs ne changent pas, parce que notre condition change. Dieu reste lui-même, ce sont ses attributs. Il nous parlerait comme ça. Si il s'est présenté à cette église étant le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, cela a donné de la force et de l'énergie à l'église de Smyrne, nous au Cap. Le fait de savoir que Jésus-Christ est le premier et le dernier, mort et ressuscité, quelle galvanisation ça nous donne? Comment est-ce que cela nous quel est l'impact de cela sur nous? Comment cela nous motive-t-il à marcher pour lui? Et à prendre des positions pour lui, à marcher zélé pour lui et à faire tout pour la cause de ce Dieu-là. L'impact de cela sur notre vie. Réfléchissons à cela. Dans la maladie, dans la douleur, Dieu n'a pas changé. Dieu se révèle à cette église souffrante pour la réconforter. Qu'est-ce qu'il dit si nous regardons notre texte? Il parle à l'église au verset 9. Il dit, l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Dieu est en train de dire, je connais Smyrne. Je ne connais pas seulement, on ne m'a pas informé. Je sais ce que tu souffres. Je sais ce que tu subis pour moi. Je sais ce que tu endures pour mon nom et pour ma cause. Je sais toutes les tribulations et toutes les larmes que tu coules toutes les nuits sur ta couche. Je sais ce que tu vis. Je sais aussi comment tu es attaché à moi. Je sais comment tu m'aimes. Au prix de ta vie, je sais que tu m'aimes. Je suis au courant de tout. La question qu'on poserait, mais Seigneur, si tu es au courant de mes douleurs, tu es au courant de mes souffrances, tu es au courant de ma maladie, tu es au courant de mon handicap, tu es au courant de ce que je ne peux pas avoir des enfants, tu es au courant de ce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un emploi, tu es au courant de ce que ma femme est malade, mon mari est malade, mon enfant est souffrant, ma mère ne vit plus correctement, et je souffre avec tout ça. Tu es au courant de tout ça, mais pourquoi tu ne fais rien? C'est ça que nous avons le goût de faire. Ce matin, c'est ce goût que tu as dans ton cœur de dire, « Seigneur, pourquoi tu ne fais rien pour moi si tu sais tout cela ?» Le Seigneur sait tout cela, mon frère. Ma sœur, laisse-moi te dire cela. Mais au travers de ça, Dieu veut se glorifier par ta vie. Es-tu prêt de laisser ta vie devenir un parfum de bonne odeur pour Dieu ? Ou tu veux être toi, toi-même ton propre maître, et Dieu va être ton serviteur ? Vous connaissez l'histoire de la lampe d'Aladin? Tu comptes? Trois souhaits? C'est ça? Alors, est-ce que c'est un Dieu Aladin nous voulons? Ou nous voulons un Dieu qui contrôle toute situation et qui se glorifie de nos vies et qui prend notre vie pour dire « Yes, cet homme, cette femme est intègre et droit » comme il a dit à Job, à l'égard de Job. Il a utilisé la vie de Job pour se glorifier. Cependant, cet homme était intègre. Il n'avait pas péché. Il marchait droit pour lui. Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Il a dit à Satan, tu es allé te promener sur la face de la terre. As-tu vu Job, mon serviteur? C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu. On connaît toute l'histoire, je ne vais pas étaler ça, mais Satan va essayer de mettre en doute le témoignage de Dieu à l'égard de Job. Mais cependant, à l'exception de ce qui se passe à Smyrne, quand je lisais, je préparais l'enseignement, ça m'a amené à faire le parallèle entre les deux. Dans le cas de Job, c'est un homme spirituel. Aussi, l'église de Smyrne est spirituelle. Job était riche et aisé. L'église de Smyrne est pauvre financièrement, matériellement, mais riche spirituellement autant que Job. L'église de Smyrne est attaquée par Satan. Job aussi est attaqué par Satan. Parce que les deux, ils tiennent debout. Et Satan fait tout, ils attaquent Job. Sauf que, excepté que Job, lui, ne savait pas tout ce qui se passait entre Dieu et Satan. Mais l'église de Smyrne est avertie de ce qui va lui arriver. Le Seigneur va lui voir, il lui dit, « Je connais ce que tu souffres. Je sais ça, je sais ça. » On va voir tantôt qui va leur dire, il y a encore 10 jours de persécution qui vont arriver. Mais tenez bon, ne craignez rien. Il va les avertir sur ça. L'Église est avertie. Cependant, Job n'avait pas été prévenu. Elle est prévenue. Mais ce qui est intéressant, c'est un individu qui est attaqué avec Job. Mais là, c'est une communauté qui est attaquée. Toute une Église. Peut-être ce matin, tu es comme Job, comme un individu. Ou comme communauté, nous nous sentons attaqués, persécutés dans différentes sphères de notre vie, dans différentes sphères de notre ministère et tout ce que nous avons vécu. Mais sache que Dieu est en contrôle. Veux-tu laisser ta vie être un parfum de bonne odeur? C'est ça la question. Dieu les réconforte en leur disant, je connais ta tribulation, ta pauvreté. Et il les encourage dans ce sens-là, par le fait que tu sais ce matin que Dieu connaît ce que tu vis. Devrait être un réconfort. Devrait te donner la force de traverser ce que tu vis, ce que nous vivons comme Église. Le fait que Dieu est au courant doit me dire, je lâche prise. Il sait quoi faire. Il va s'en occuper. Que je m'inquiète, ça ne changerait rien dans la situation. ce qui va aider, c'est d'accepter la situation, avoir une bonne attitude appropriée qui donne gloire à Dieu jusqu'à la fin de mes jours. S'il me délivre aujourd'hui, gloire à lui. S'il ne me délivre pas, la mort n'est pas la fin pour moi, mais la mort me donne l'occasion de rentrer dans la présence de mon Dieu et de mon Père, là où c'est encore meilleur. Deuxièmement, Dieu écrit à cette église pour l'encourager à tenir ferme dans les tribulations. Ne crains rien, c'est ce qu'il dit. Ne crains rien parce que ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez, comment, éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. Dieu dit à Job, à l'église de Smyrne. Il vient les réconforter en disant, je connais ce que vous vivez. Je suis moi-même passé par là. Je suis mort, j'ai connu la persécution, les difficultés. Mais là, il leur dit, ne crains pas. Il les encourage avant que la chose n'arrive. Il leur dit, il va avoir un problème. Mais il vient t'encourager pour dire, ne crains pas. Je vous demande ce matin, y a-t-il des choses qui vous font peur? Y a-t-il des choses qui nous font peur? Mais en tout cas, moi, je suis un humain, il y a des choses qui me font peur. Même si je suis ouvrier du Seigneur, je suis enfant de Dieu, mais il y a des choses qui me font peur parce que naturellement, je suis encore dans la chair humaine. Mais ce qui m'aide, quand le Seigneur me dit, n'aie pas peur, il dit la même parole plusieurs fois à Israël. Dans Ésaïe 41:10, il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. De ma droite triomphante, je te soutiens. Il n'a pas dit, je vais enlever le problème. Il n'a pas dit, je vais enlever tout le mal. Il dit, je suis là avec toi, je te soutiens, tu ne périras pas dedans. Je serai avec toi. La délivrance, c'est qu'en tant que des humains, nous ne voyons que la délivrance à un seul niveau. Nous voyons la délivrance au niveau physique seulement. Mais nous ne savons pas que la délivrance est à deux niveaux. Que je sois guéri de ma maladie, que je trouve un emploi ou pas, la guérison doit être des deux niveaux. Si je rentre dans l'éternité, c'est aussi une façon d'être délivré des souffrances d'ici. Et maintenant, plus de péché, tout est réglé. Je suis dans la présence de mon Père où tout est beau et tout est clair. Où je vais recevoir une couronne comme lui. Je vais avoir un corps glorifié. Et si je suis ici-bas, et que Dieu me garde au travers de la souffrance, il me relève, alors je dois aussi avoir confiance. Il dit, ne crains rien. Ce que tu vis, c'est des situations difficiles. Ce que je vis, c'est des situations difficiles. Mais Dieu est là, pareil. Il dit à Israël, au peuple, à ses disciples, dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit, je suis avec vous jusqu'à vous aurez des souffrances, je vais vous quitter. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je suis avec vous jusqu'au jour où vous avez des troubles, ben moi je vous laisse. Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Ne crains rien. Les souffrances que tu vas endurer. L'église de Smyrne aurait pu dire, Seigneur, est-ce que ce n'est pas suffisant ce que j'ai déjà fait pour toi? Je souffre déjà. Ça, ce n'est pas suffisant. Alors tu me dis qu'il va y avoir encore 10 jours de souffrance. Mais c'est quel genre de Dieu que tu es? Mais non, l'église n'a pas dit ça. L'église a enduré, a accepté de vivre. Si ça prend 10 jours, on va le faire. En disant 10 jours de souffrance, Dieu est en train de dire que la persécution va arriver et il y a des limites à cela. À courte durée, elle ne sera pas là pour toujours. Des fois, ça peut être là pour toujours pour certaines personnes. Et il y a d'autres endroits, ça ne sera pas pour toujours. L'un ou l'autre, nous devons accepter. D'une façon ou d'une autre, la persécution ne peut pas être là éternellement. Ça a une fin. Les gens vont vous haïr à cause de votre mode de vie pour Dieu. Parce que vous avez choisi de marcher comme ça, à marcher à l'encontre de notre société. Et de plaire à Dieu plutôt que de plaire à notre société. Et nous sommes dans une société où on veut plaire à tout le monde. On veut faire des omelettes, mais on ne veut pas casser des œufs. On veut plaire à tout le monde. Et finalement, on ne plaît plus à tout le monde. Quelqu'un a dit qu'il y a un soldat sur un front qui a décidé de s'habiller le haut de l'autre côté et le bas de l'autre côté. Comme ça, il était sage. Il pensait que lui, il va plaire à l'autre côté, il plaît à l'autre bord. Et puis, il s'est mis à la ligne de front. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux ont tiré dessus. Parce que ceux qui voient l'autre bord, ils voient là-haut, c'est l'ennemi. L'autre qui va à l'autre bas, il dit c'est l'autre ennemi. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux ont bombardé dessus. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Choisis ton camp. Si tu marches pour Jésus-Christ, marche pour lui. Que les gens t'haïssent et qu'ils te haient parce que tu es un homme, une femme intègre, une femme droite, une femme qui veut vivre pleinement sa foi, une femme qui veut être digne, un homme qui veut vivre pleinement pour Dieu. Quand on te haït pour ça, tu n'as pas à rougir pour cela. Pierre nous dit, si on vous hait, on vous fait du mal. Si vous souffrez pour le bien que vous faites, n'ayez pas honte. Mais nous devons avoir honte si on nous persécute parce que nous sommes des voleurs. Ça, ce n'est pas une persécution. On te donne ce que tu mérites. Amen. Et Dieu soit fidèle. Il va avoir de la persécution. Il va avoir de la prison. Dans la persécution, on peut te mettre en prison. Il va avoir même, il se peut que tu vas mourir au travers de cette persécution-là. Et des fois, quand je pense à cela, ça me rappelle toujours en arrière quand j'ai été chassé par mes parents. Pendant 23 ans, 12 ans, à deux étapes, 12 ans, mon papa et ma maman, personne ne me parlait. Ce n'est qu'en 90, en 2010, quand je suis allé, que mon père m'a appelé pour me demander pardon pour tout le mal qu'il m'a fait. Ça faisait 23 ans qu'il me haïssait. Mais j'ai dit, c'est bon. Le jour qu'il a mis mes bagages dehors, il dit, tu n'hériteras plus rien de moi, Adama. On ne te donnera pas de femme. Dieu m'a donné une belle femme, une Québécoise. Ils m'ont rejeté partout. Mes amis m'ont abandonné du jour au lendemain. Mais j'ai dit, c'est pour Dieu que je le fais. C'est pourquoi certains, des fois, les gens ne comprennent pas mon attitude. Ils vont trouver que je suis drastique des fois. C'est vrai. Parce que j'ai dit, je n'ai pas fait de compromis pour marcher avec Dieu. J'ai accepté d'être rejeté pendant 23 ans. Je ne ferai pas de compromis. Je n'irai pas boire à la fontaine de la popularité. Je vais marcher avec Dieu. Si les autres veulent le faire, ils le feront. Sur ce temps, on marchera dans cette vérité. Sinon, je suis prêt à ne pas être leur ami pour aller dans cette direction. Parce que si j'ai accepté d'être rejeté par ma famille, alors ce n'est pas toi que j'ai connu quelques jours que je vais garder, sacrifier ma foi sur l'autel de ton amitié. Oublie ça. Oublie ça. Je ne sacrifierai pas ma foi sur l'autel de l'amitié de qui que ce soit. Personne. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ayons la conviction de notre foi. Ayons la conviction de notre foi. Et le courage de nos convictions et le courage de notre foi. Marcher. Et cette église de Smyrne l'avait. On continue. Il a encouragé, dernier point, et dit, Dieu promet. Qu'est-ce que Dieu promet à ses églises et aux vainqueurs? Il dit, celui qui vaincra, il aura quoi? Il ne connaîtra pas la seconde mort. Il donnera une couronne à ceux qui vaincront. Et il vient dire à la fin, celui qui vaincra n'aura point à souffrir, n'aura pas à souffrir la seconde mort. La couronne de vie, dans la ville de Smyrne, on faisait de l'athlétisme. Quand les gens gagnaient, comme vous connaissez les Jeux Olympiques, tout récemment en Grèce, ils ont fait les Jeux Olympiques, mais aussi à Sochi. Alors, quand les gens gagnaient, qu'est-ce qu'on leur donnait? Une médaille d'or. Mais en Grèce, quand il y a eu les Jeux Olympiques, on les mettait des couronnes en feuilles de laurier sur leur tête, n'est-ce pas? Ils ont fait ça pour eux. Et dans la parole de Dieu, et il se réfère à ça dans le passé. Il dit, je vous donnerai une couronne de vie. Si on vous tue parce que vous avez décidé de vivre pour moi, il dit, moi je vous donnerai une couronne de vie, une vie impérissable, une vie qui ne tarit pas, une vie que rien ne peut. C'est-à-dire qu'il y a une vie là où tu n'es pas tuable. Vous savez, il y a des situations où on dit, la personne n'est pas tuable. Hein? Mais Dieu te dit, je te donnerai une vie où tu ne seras plus tuable. On ne pourra plus te tuer. La fin des hommes, qu'est-ce que peuvent faire des hommes aux, que peuvent faire les humains aux gens? La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, il dit, pourquoi avoir peur des gens qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas tuer l'âme? Mais aie peur de moi qui peut faire souffrir les deux. Non seulement tuer ton corps, mais mettre ton âme dans l'enfer pour l'éternité. Dieu te dit ça, il me dit ça. C'est pourquoi je n'ai pas peur des autres personnes, dans ce sens-là. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'eux. La persécution est un fait. Si tu souffres, tu peux souffrir qu'une seule fois. Un jour, je marchais devant notre maison, en Afrique. Je suis quitté chez nous, je partais au marché. Puis le chien du voisin a traversé pour me mordre. On avait peur du chien, on courait. Mais un jour, mon papa m'a donné ce conseil. Il a dit, le chien là, ne peut te mordre qu'une seule fois. Je lui ai dit, mais comment papa? Et il dit, s'il arrive, tu te prépares bien. Si lui te rate, toi tu ne le rates pas. Et s'il te mord, il va te mordre une fois, mais ton coup que tu vas donner, il va se souvenir toute sa vie. C'est la même chose. Le païen, ils peuvent nous tuer. Ça s'arrête là. Mais nous, on va avoir la vie éternelle. La souffrance ne sera pas éternelle pour vous et moi. On va avoir un corps glorifié. Jésus dit, je vous donnerai une couronne de vie. Vous ne connaîtrez pas la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Et c'est là Polycarpe dit, je n'ai pas peur de ce feu de ce monde. Je n'ai pas peur du bûcher, mais j'ai peur du feu qui brûle, qui ne s'éteint point pour toujours. C'est ça la seconde mort. À la fin des temps, quand Jésus dit, je suis le premier et le dernier, il est le dernier parce qu'il va juger tout le monde. Et les gens se lèveront, ils seront jugés. Ils vont aller dans l'enfer pour ceux qui ne sont pas croyants. Alors, ils vont brûler, ils vont mourir. Une mort qui ne finit pas. On va terminer avec quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu, l'exemple des personnes qui sont mortes pour la cause de Dieu. S'il vous plaît. Attends, est-ce que je suis parti? Oui, vas-y, Billy, s'il te plaît. Ici, cette histoire, c'est à Madagascar, c'est arrivé. C'est semblable à l'église de Smyrne, où on demande d'adorer le roi ou la reine. On force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils sont chrétiens.
Vive sa majesté, que vous viviez aussi longtemps que le peuple. La raison de ma présence ici, très excellente reine, c'est de vous communiquer une chose très inquiétante.
De quoi s'agit-il?
Vous connaissez bien, excellente reine, ces étrangers qui viennent d'au-delà des mers, ceux qui enseignent au peuple une nouvelle religion.
Oui, mais jusqu'à maintenant, je ne connais même pas une personne qui soit favorable ou qui accepte cette nouvelle religion.
C'était peut-être vrai à ses débuts, Majesté, mais actuellement, tout a changé. Je suis même convaincu que parmi vos courtisans, il y en a qui suivent cette nouvelle religion.
Ouais, on continue, Billy. On a coupé court pour que ça puisse aller
ainsi
plus vite.
Ainsi dit la reine. Si vous renoncez à prier Jésus, vous ne mourrez pas. Que décidez-vous?
Maintenant, en quoi glorifierai-je le Christ? Car pour moi, vivre c'est Christ, et la mort m'est un gain.
Espèce de fou! Amène-le au bord de la falaise. Je te donne encore une dernière chance. Abjuras-tu, oui ou non? Parle!
Maintenant, comment honorerai-je le Christ? Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain.
Vas-y! Et toi? Fais donc soumission à la reine, et tu sauveras ta vie.
Que notre Dieu bénisse la reine!
Mais alors, renieras-tu cette religion? Abjure et tu vivras!
Et ça, c'est une histoire vraie.
Il y a peu de temps que je suis chrétien.
Qui s'est passé à Madagascar.
Et je connais bien mal notre Seigneur. Cependant, la Bible dit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Nous sommes tous prêts à mourir. Comme ceux qui sont morts par fidélité au Seigneur, car de telles morts ne sont pas vraies.
Et je vais partir le dernier, si vous me donnez une dernière minute. Il y a une dernière, on va partir avec ça. Dernière vidéo. Pour ceux qui sont très sensibles, on n'est pas obligé de regarder. Mais, dernière vidéo. Oui.
Les voici, ceux qui ne se soumettent pas à Sa Majesté. Lapidez-les. Attention, exécutez.
Pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Bon courage, ma bien-aimée. Ton amour et ton courage fortifient ma foi. J'implore Dieu pour qu'il te donne la force nécessaire en ce moment. Nous serons tous les trois devant Dieu.
On va arrêter la vidéo là. Et nous voyons, ce n'est pas de l'imagination, frères et sœurs. Ça, c'est des faits qui se sont passés. En Afrique, ça s'est passé ça, à Madagascar. Au Tchad, où Jacky et nous travaillent, il y a eu, dans le passé, M. Tom Balba qui a été devenu président, qui était le pasteur, qui a été voté pour être président. Les pasteurs étaient salariés. Tous les pasteurs de l'État étaient payés, les gens étaient payés par le gouvernement. Il a enterré, plus tard il a changé, on ne sait pas quelle bête l'a piqué, il est devenu fou. Il a commencé à persécuter des chrétiens et à les enterrer vivants. Lui qui était pasteur a commencé à enterrer des gens vivants, à tuer des personnes. Frères et sœurs, ce matin, mon objectif est de nous encourager à savoir que nous avons un Dieu tout-puissant, que toutes ces armes que le monde utilise pour essayer de nous taire, nous empêcher de vivre notre foi pleinement pour Dieu, nous empêcher d'être des véritables chrétiens, des véritables témoins de Dieu, où la maladie, où la souffrance, le manque de travail, la pauvreté et les choses, ce ne sont pas ces choses-là qui devaient nous empêcher de vivre pleinement et dignement pour notre Dieu. Nous devons braver tout ça, parce que dans l'éternité, le Seigneur nous promet des choses. Il nous dit dans Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim ou la nudité ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses, et ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est ce que l'Écriture nous dit. Et quand nous vaincrons, voilà la couronne que Dieu va nous donner. Et nous devons tenir debout, frères et sœurs. Lâchons pas. Je termine avec ce chant pour vous. C'est pas long, c'est court. Et ça, c'est africain que je l'ai appris. Et j'ai trouvé ça bien. C'est un frère qui s'appelait Cécé qui chantait ça. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal, ainsi soit-il.
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Papa Adonai. Il est l'alpha et l'oméga. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse.